troisième temps de notre série sur la réinvention de la Grèce classique. Aujourd'hui, comment les Européens ont-ils rêvé la Grèce au XVIIIe et XIXe siècle ? Dans ce troisième volet de notre série, nous nous intéressons avec Yorgos Archimandritis au regard des Hommes des Lumières, mais aussi des Saint-Simoniens sur la Grèce, alors qu'elle se détache progressivement de l'Empire Ottoman. Voltaire, mais aussi Chateaubriand ou Byron, bien sûr, rêvent de ressusciter la patrie des Miltiades, des Léonidas, des Alexandres, des Sophocles et des Platons. La Grèce, devenue ensuite indépendante, se voit mise sous tutelle des puissances européennes que sont la France, la Grande-Bretagne et la Russie, qui la dotent d'un roi étranger au pays, Othon de Bavière. La nouvelle nation grecque est alors un lieu d'expérimentation urbanistique, architecturale et administrative pour un grand nombre de modernisateurs européens qui s'y précipitent. Nous en parlerons grâce à des textes qui seront lus par Daniel Königsberg, ainsi que de nos deux invités, donc Dimitris Kopelitis, en duplex depuis les studios de la radio à Genève. Il est enseignant à Genève et co-auteur de Construire la Grèce chez Antipode. Et Yanis Tiomis, qui est en studio avec nous ici à Paris, architecte et urbaniste et directeur d'études à l'École des études en sciences sociales et auteur d'un livre très enthousiasmant qui vient tout juste de paraître chez Parenthèse, Athènes à soi-même étrangère, naissance d'une capitale néoclassique.
La patrie des Miltiades, des Léonidas, des Alexandres, des Sophocles et des Platons devint bientôt barbare. La langue grecque dès lors se corrompit. Il ne resta presque plus de traces des arts, car, quoi qu'il y ait dans Constantinople une académie grecque, ce n'est assurément pas celle d'Athènes. Et les beaux-arts n'ont pas été rétablis par les 3000 moines que les sultans laissent toujours subsister au mont Athos. Autrefois, cette même Constantinople fut sous la protection d'Athènes. Aujourd'hui, les descendants des Tartares dominent dans ces belles régions et à peine le nom de la Grèce subsiste.
Voilà le texte, premier texte de cette émission d'archives du mercredi, lu par Daniel Königsberg. Nous sommes avec vous, Yorgos Archimandritis, bonjour.
Bonjour.
Avec vous-même, Yanis Tiomis, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être notre invité. Et ainsi que Dimitris Kopelitis, bonjour.
Bonjour.
En duplex depuis les radios de la RTS, la radio-télévision suisse à Genève. Ce texte est tiré de votre livre que vous avez écrit avec Dimitris Oufereil il y a quelques années, dont vous êtes déjà venu parler à la Fabrique de l'Histoire, qui s'appelle « Construire la Grèce 1770-1843 » paru chez Antipode dans la collection Histoire moderne. Et il est signé d'un certain Voltaire.
Oui, tout à fait. Disons que ce texte de Voltaire, comme vous avez pu le constater, est déjà montre déjà une image de la Grèce en pleine déchéance, effectivement.
Mmh. Et une déchéance qui, évidemment, frappe un Européen comme Voltaire, mais qui ne s'est jamais rendu sur place, évidemment. Il travaille à partir des récits de voyageurs qui sont déjà nombreux au XVIIIe siècle sur cette Athènes et cette Grèce antique, en l'occurrence, sous le joug des Ottomans, des Tartares qui dominent dans ces belles régions, dit-il. Mais il y a aussi une idée chez Voltaire, expliquez-vous, de vouloir trouver un pendant à la Rome, évidemment trop religieuse à son goût, la Rome dominée par les papes, en allant puiser dans un autre héritage antique que celui de la Rome classique.
Je ne comprends pas votre question.
Dimitris Kopelitis, ce qui est intéressant dans le livre que vous écrivez à propos justement de Voltaire, c'est qu'il va chercher ailleurs, à Athènes en particulier, une sorte de pendant à Rome, c'est-à-dire que Rome, c'est la ville des papes, et qu'il faut chercher dans l'Antiquité un autre endroit qui puisse justement reforger une identité européenne qui ne serait pas marquée par la religion chrétienne en particulier.
Oui, alors là j'ai bien saisi cette fois. Non, effectivement, disons que concernant l'Antiquité, c'est pas le premier à s'y référer. Donc, comme vous l'avez mentionné, tous les voyageurs qui sont allés en Grèce à partir de la fin du XVIIe siècle déjà. Nous avons des personnages comme Jacob Spong qui arrivent dans les dernières années du XVIIe. Commence à s'intéresser à nouveau à cette antiquité, en commençant par les ruines, avant de se pencher davantage sur le peuple qui l'entoure. Mais il en demeure pas moins que ces Grecs qui se retrouvent autour de ces magnifiques paysages, comme vous l'avez mentionné, de ces ruines, etc., sont les Européens vont se poser la question, est-ce que ils sont les dignes héritiers de leurs ancêtres, dignes effectivement entre guillemets, mais c'est la question telle qu'elle se pose à cette période. Et donc du coup, l'Antiquité, ils essaient de créer un lien entre cette Antiquité qui est toutefois présente, certes en ruine mais présente, et puis les résidents actuels. C'est une manière en fait de faire revivre l'héritage antique qu'eux-mêmes ont idéalisé à travers un peuple qui est toujours là. On se pose effectivement la question, est-ce que ce peuple peut renaître de ses cendres, entre guillemets?
Oui, c'est une sorte de volonté de, on appelait ça peut-être aujourd'hui, si on était du côté de l'ONU, de nation building, c'est-à-dire de construction d'une nation. Yanis Tiomis, il y a cette idée-là, c'est-à-dire qu'il va falloir détacher de cet immense ensemble qui est l'Empire Ottoman, cette province de Grèce, et lui redonner un caractère national qu'elle n'a plus depuis bien des siècles, en l'occurrence, Yanis Tiomis.
Oui, exactement. D'ailleurs, ce n'est pas seulement la Grèce, c'est tous les Balkans qui se soulèvent d'une manière ou d'une autre à cette époque-là. Mais la Grèce, plus particulièrement, avec la Libye de l'Antiquité, et pour des raisons géostratégiques des trois puissances que vous avez citées tout à l'heure.
La France, la Grande-Bretagne et la Russie.
Et la Russie, et je dirais le premier heureux élu pour l'indépendance. C'est en même temps le moment de l'affirmation du concept État-nation. Et ça tombe bien. C'est en même temps la Révolution française, un peu plus tard. Et ça tombe encore mieux. Il y a quelque chose de très intéressant dans cette histoire, c'est que tout le monde n'est pas d'accord pour l'indépendance de la Grèce en tant qu'État-nation. Il y a des idées des personnes comme Rigas Vellinstilis pour un fédéralisme.
Un des pères de la nation grecque.
Et qui est pour les Lumières, qui est pour un fédéralisme. À l'image des États-Unis, les États-Unis sont très présentes hein, à l'époque. Il y a un peu plus tard, Adamantios Korai, un lettré qui vit à Paris, médecin et en même temps philologue, etc., qui lui, il dit, il faut d'abord l'éducation et ensuite l'indépendance.
Oui, il faut dire qu'effectivement l'impact de la Révolution française, Dimitris Kopelitis, est très important sur cette Grèce de la fin du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, parce que certains citoyens de la Révolution française, des gens qui viennent d'ailleurs, comme il y en a eu beaucoup, sont des Grecs, et ils découvrent effectivement la capacité d'un peuple à se rebeller contre son roi, à se rebeller contre le pouvoir, et donc à faire une véritable révolution, Dimitris Kopelitis.
Oui, d'ailleurs, c'était notre problématique de départ. Lorsque nous avons commencé à nous pencher sur ce sujet au milieu des années 2000, avec Dimitris Zuffray, on s'est posé la question, comment se fait-il qu'un peuple, pourquoi ce peuple? Alors effectivement, on vient d'y répondre aussi. Hein, c'était pas contextuel, enfin décontextualisé plutôt de l'environnement balkanique en général. Mais comment se fait-il que ce peuple-là, à ce moment-là, projette une liberté d'une part et d'autre part le fasse en des termes républicains, parce que les Grecs se réunissent en assemblée nationale à Épidaure en 1822. C'est quand même un geste fort dans une période qui est quand même assez, on va dire, à contre-courant, disons, de ce que fait la Sainte Alliance à l'époque. Et la question était celle-là au départ. Donc nous sommes allés chercher un tout petit peu plus loin dans le temps, justement en revenant sur sur des personnages comme Adamantios Korais et d'autres encore, en parlant de Voltaire, mais aussi de tous les voyageurs comme Pierre-Augustin Guy, etc.
Oui, alors Adamantios Korais, dont vous citez un extrait de texte paru en 1801, Mémoire sur l'état actuel de la civilisation de la Grèce, Notice sur les Grecs modernes, sur la langue et sur quelques ouvrages écrits en cet idiome, paru à Paris en 1801. Un extrait nous en est lu par Daniel Königsberg.
L'enthousiasme de ne plus être gouverné que par des lois fut si général qu'on ne parlait plus que des Français. Partout, il se formait des sociétés secrètes de nouvellistes qui recueillaient avec soin et répandaient à dessein les bonnes nouvelles qui venaient de France. Les triomphes des Français étaient leurs triomphes. Leurs revers, inventés ou grossis par les ennemis, les plongeaient dans la douleur et la consternation. Dans quelques bourgs du Péloponnèse gouvernés par des municipalités grecques, qui souvent abusent du pouvoir que les Turcs leur confient pour opprimer les bourgeois, le peuple s'insurge contre les municipaux. Et pour ne rien perdre de l'exemple de la France, il fut question de convoquer des assemblées primaires.
Yannis Thiomis, cet exemple de la Révolution française, vous le traquez même dans votre livre Athènes à soi-même étrangère, naissance d'une capitale néoclassique, en expliquant que dès le moment de l'indépendance, on va chercher des modèles pour savoir ce qu'on va faire de ce nouveau pays détaché de l'Empire ottoman, et on va trouver des modèles, en particulier dans cette France de 1790, qui crée des départements, des communes, et qui balaye l'ancien cadastre royal, l'ancien cadastre de l'ancien régime. Yannis Thiomis.
Ce qui est intéressant dans cette fondation de l'État-nation, par les Bavarois, d'abord par le gouverneur Capodistrias et ensuite les Bavarois, c'est la violence. La double violence faite aux hommes et faite à l'espace. À l'espace, c'est normal, puisqu'il faut répondre d'une certaine manière au modèle français et napoléonien. Il ne faut pas oublier que le régent... un des régents qui s'occupe de cette question, c'est Georg Ludwig Maurer, qui est un professeur et spécialiste de la du droit coutumier français. Mm-hmm. Mais en même temps, la loi qu'ils imposent, c'est une image d'un pays plat. Je dirais.
Alors, il faut s'arrêter sur cette idée qui est une idée forte de votre livre Athènes à soi-même étrangère, Yannis Thiomis, c'est-à-dire que voilà des gens qui ne connaissent pas la Grèce, qui sont donc par la vertu de cette indépendance acquise par les Grecs eux-mêmes, mais aussi par des troupes étrangères qui viennent les y aider, cette indépendance arrive et au bout du compte, ils découvrent ces Européens qui vont venir pour pouvoir gouverner ce pays parce que la France, la Grande-Bretagne et la Russie ne veulent surtout pas laisser les Grecs se gouverner eux-mêmes d'une certaine façon. Et donc, ils vont nommer Othon de Bavière, fils de Louis Ier de Bavière, à la tête de ce pays. Ils vont le placer à la tête de ce pays. Et ce pays, donc, va être vu par eux comme un pays plat, dites-vous.
Oui.
Alors qu'on connaît la géographie de la Grèce.
Oui, un pays plat, pas seulement par ignorance, mais je dirais par une vision productrice de la Grèce. Il y a un débat, est-ce qu'il faut installer une industrie lourde ou à l'anglaise ou une industrie légère? Est-ce qu'il faut que ce soit un pays agricole ou pas? C'est extrêmement intéressant que tout n'est pas donné et tout n'est pas pacifié.
Yorgos Hachimandritis, une question?
Oui, je voulais en fait demander, vous avez parlé tout à l'heure de violence faite au peuple et au paysage aussi, au pays, au sens géographique. Est-ce que, par exemple, la fondation d'Athènes, donc ils ont essayé de fonder une nouvelle ville, une nouvelle capitale, est-ce que façonner donc une ville et ses symboles n'étaient pas aussi... une façon de façonner aussi les gens qui y habitaient, les habitants, et leur conférer des caractéristiques que eux ils croyaient qu'ils devaient avoir.
Il y a deux réponses à cette même question. La première, c'est qu'il faut voir pas d'État-nation sans ville-capitale, pas de ville-capitale sans État-nation. La Grèce avait besoin d'une capitale et Athènes était normal qu'elle le devienne.
Au départ, ça n'a pas été Athènes, il faut d'ailleurs le rappeler. Ça a été très peu de temps, ça a été Nauplie en l'occurrence.
Ça a été Nauplie et ça a été une bagarre énorme entre 10 villes, 9 villes plutôt, pour devenir capitale. Si on choisit Athènes, c'est parce que justement, Athènes, c'est un village sec, mais avec une histoire. Et donc, c'est le nom qui fait qu'on privilégie Athènes pour neutraliser toutes les petites villes qui prétendent devenir capitales.
Oui, parce que ce qui est très intéressant dans cette Renaissance et qu'on découvre dans votre livre Yannis Siomis chez Parenthèse, Athènes à soi-même étrangère, ce qui est très intéressant, c'est qu'on rêve même dans ces années entre 1825 et 1835 de faire renaître les vieilles villes antiques. C'est-à-dire qu'on va... On se dit, on va s'installer à l'endroit même où il y avait des villes antiques, il n'y a plus rien, ce sont des ruines, mais on va recréer une nouvelle ville sur l'image que l'on se fait de ces villes antiques. Et ça, c'est une véritable découverte pour moi, je ne savais pas qu'il y avait cette ingénierie, dirait-on aujourd'hui, géographique et administrative.
Tout à fait. Un exemple, c'est Sparte. À côté de Sparte, il y a le village de Mystra qui existe. On déplace le village de Mystra et on fait un nouveau plan, des ingénieurs français d'ailleurs, un nouveau plan pour Sparte, qui est un plan hippodamien, c'est-à-dire réglé absolument.
À angle droit.
À angle droit, etc., etc. Mais c'est Sparte. Au fond, c'est le nom qui attire. Mais c'est aussi vrai pour d'autres villes qui existent.
Yorgos Archimandritis.
Et ce qui est fascinant, c'est que Leo von Klenz, l'architecte, en 1838, il disait, il avait écrit, un aménagement d'Athènes est une affaire artistique européenne. Mais... et l'on doit en quelque sorte en rendre compte à l'Europe entière. C'est fascinant quand même.
Oui, mais je dirais fascinant et banal. C'est-à-dire que il y a des raisons internes et internationales pour lesquelles on choisit Athènes comme capitale, comme je l'ai dit. De la même manière, d'ailleurs, on peut faire le parallèle avec Washington. Si Washington, on l'a choisi, c'est pour neutraliser San Francisco, Boston et les autres villes prétendantes. Sauf qu'il y a une différence, c'est que on choisit Washington parce qu'elle n'a pas d'histoire, on choisit Athènes parce qu'elle a de l'histoire. Mais Athènes, c'est un village sec, comme je le dis, sans importance.
Une histoire tellement importante que Maurer, il faut que vous nous présentiez Maurer, en l'occurrence, qui est un personnage très important. Il est régent, donc, dans ce nouveau royaume de Grèce. Et il écrit, avec un ton un peu sarcastique, dites-vous, ce texte qui nous est lu par Daniel Königsberg.
Depuis que l'Europe a commencé à s'intéresser à la Grèce, elle a pris ce peuple opprimé pour les anciens Grecs. Dès qu'un Grec se présentait, on l'accueillait comme un héros de cette glorieuse époque. Jusqu'au moment où les Grecs, qui ont une tendance naturelle à la prétention, ont cru eux-mêmes qu'il devait en être ainsi. Et au lieu d'essayer au moins d'imiter leurs ancêtres, ils ont cru s'être transformés automatiquement en anciens Grecs. Et quand ils sont rentrés dans leur patrie, munis par les Européens du label « demi-dieu » et qu'ils se sont comparés à leurs frères autochtones, ils se sont alors convaincus qu'ils n'étaient pas simplement des demi-dieux, mais des dieux à part entière. Par conséquent, il n'y avait pour eux aucune autre place que celle du plus haut sommet de l'Olympe.
Écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin.
Alors Yannis Siomis, fameux Maurer est un des régents qui gouverne la Grèce dans les années 1830 et il a un ton évidemment très méprisant par rapport pas simplement aux Grecs qui vivent sur place mais plutôt d'ailleurs aux Grecs qui sont partis à l'étranger et qui en sont revenus chargés de cette idée européenne de la Grèce.
Oui, c'est la question des hétéroctones, dont d'ailleurs mon collègue Scopelitis en parle. Mmh. Et c'est très intéressant, parce que ce n'est pas du racisme et ce n'est pas du mépris racial, mmh. Mais c'est une interrogation. La même interrogation que pose d'ailleurs Capodistrias, le gouverneur, avant que les Bavarois arrivent.
Un gouverneur donc formé à la cour de Russie, en l'occurrence originaire de Corfou, et qui est le premier dirigeant, pourrait-on dire, de cette Grèce nouvellement indépendante, et qui sera assassiné à Anopli en 1831.
Tout à fait, et qui est en même temps co-auteur de la Constitution suisse. À part d'être ministre des Affaires étrangères, vous voyez, c'est... la complexité, on l'a pas découverte aujourd'hui, ni la mondialisation. Et donc la question des hétéroctones, c'est très intéressant parce que c'est des Grecs de l'étranger ou partis très tôt et allant à l'étranger, ils deviennent je dirais savants entre guillemets ou prétendument savants. Ils font des études et on a peur d'eux. Peur parce que il y a un décalage entre ces gens-là qui reviennent avec l'indépendance, qui prétendent avoir des postes, à juste titre d'ailleurs, face aux autochtones, comme on les appelle, c'est-à-dire les Grecs.
Restés sur place,
qui n'ont aucune culture, ou ils ont plutôt la culture ottomane, parce qu'ils ont une culture, et donc il y a une contradiction là. Et c'est cette contradiction qui est très intéressante, que Capodistrias aussi fustige ces hétéroctones en disant « qu'est-ce que c'est prétentieux ?» Maurer, pareil, mais c'est plus une interrogation du comment gérer cette contradiction entre autochtones et hétéroctones.
Dimitri Scopelitis, sur ce point, parce que effectivement c'est un joyeux mélange, pourrait-on dire, cette Grèce nouvellement indépendante du début des années 1830, avec ces Grecs partis à l'étranger se former, ces Grecs restés sur place, et puis ces étrangers qui prennent la tutelle du pays.
Je rejoins totalement Monsieur Tiomis là-dessus, étant donné que imaginez-vous bien, si on se place d'un point de vue du point de vue des Grecs qui ont fait la révolution, ils voient arriver tout d'un coup une cohorte d'étrangers et puis de Grecs savants qui n'ont pas directement participé, mais qui viennent aussi avec un bagage et une conception, une image très européenne de la Grèce qui n'est pas nécessairement celle qu'ils avaient en tête. Mmh. Et on ne se situe pas seulement au niveau de l'histoire des idées, on est aussi au niveau des influences politiques, au niveau des avantages qu'avaient aussi les locaux. Il faut bien comprendre que le monde ottoman était toutefois organisé avec des notables, des propriétaires terriens sur place qui avaient une conception aussi de la gestion. Qui était justement très très différent de ce que Capodistrias a essayé de mettre en place, très différent de ce que la régence a essayé de mettre en place, et ils ont vu cette modification fondamentale du projet grec comme une attaque,
oui.
En tout cas comme une ingérence.
Oui, il faut dire que Adamantios Korais, dont on parlait tout à l'heure, avait bien dit imiter l'Europe, étudier l'Europe, des lois et législatures, cherchez-en en Europe, Yanis Tiomis. Donc il y avait bien cette ambiguïté de est-ce qu'on est capable de produire nous-mêmes les nouvelles normes de ce nouveau pays, de ces nouvelles villes, de ces nouvelles capitales, ou est-ce qu'il faut aller les chercher ailleurs ?
Ailleurs. Il y a un historien grec de littérature qui s'appelle Panayotis Moulas qui dit on ne peut pas imaginer que la Grèce est un monde de superstition au début du 19e siècle. C'est ça le problème, c'est-à-dire il n'y a pas d'éducation. Et la revendication de Korais, c'est une revendication plus générale de Capodistrias.
D'émancipation. Il faut d'abord faire une éducation publique primaire, par exemple,
voilà,
pour pouvoir ensuite construire un pays et progressivement avoir les cadres qui vont le gouverner. C'est ce que vous voulez dire.
Exactement, exactement. Donc, la question de l'éducation, de la mise en place d'un système d'éducation, et il paraît primordial.
Vous parlez d'éducation. Tout à l'heure, on a parlé de culture. Vous avez parlé de culture d'un côté européenne, de l'autre ottomane. Mais on oublie aussi, excusez-moi, qu'il y avait une culture grecque à cette époque. Cette culture qu'on a mis un peu dans l'ombre pour justement privilégier la culture antique, etc. Il y avait une culture, la culture des chansons démotiques, par exemple, les chansons folkloriques, traditionnelles. Il y avait toute une poésie qui était véhiculée par la langue grecque.
Et une culture aussi religieuse et byzantine orthodoxe, j'imagine.
Oui, ce qui fait un peu trop d'éléments pour pouvoir fonder un état de droit. Bien sûr, il y a la culture, mais bien sûr, il y a les chansons, bien sûr, il y a la tradition, bien sûr, il y a le vernaculaire, mais il y en a partout. C'est au fond un phénomène balkanique, comme c'est un phénomène dans le Maghreb, quand la France va, en 1830...
Découper un pays qui s'appelle l'Algérie.
Etc. C'est le prix à payer. Je pense que c'est le prix à payer si on voulait créer un État moderne. Cette violence faite aux hommes, qui est ambiguë, je le répète, elle est ambiguë, cette violence. Maurer se rend bien compte qu'il faut maintenir même des pans du droit coutumier.
Oui.
Mais dans un espace politique...
administré par les Européens.
Et de droit, des lois et de gestion, au fond, de l'espace.
Cette violence, vous en donnez quelques exemples, en l'occurrence, faites aux hommes en particulier. Ce sont des déplacements de population. Ce sont des villages qu'on raye de la carte parce qu'ils sont mal placés, parce qu'il y a des fièvres, parce qu'il y a des maladies, et qu'on se dit, en bon Saint-Simonien, parce que les Saint-Simoniens participent à cette reconstruction de cette nouvelle nation, en bon Saint-Simonien, on se dit, on va faire quelque chose de rationnel, donc on va déplacer ces villages, donc on déplace des villages, on supprime certains des villages qui existent, on abandonne, dites-vous, les territoires montagneux pour privilégier les plaines. Surtout. Donc c'est quand même une sorte d'ingénierie géographique et territoriale absolument incroyable, Yannick.
Oui, surtout dans la lettre de la loi, de cette loi de 1834 qui recompose l'espace géographique et administratif en même temps. Surtout dans la lettre, parce que ça n'aboutit pas. Heureusement, d'ailleurs.
Parce qu'il y a une résistance passive des Grecs eux-mêmes à ce nouvel ordre administratif.
Oui, et puis il y a le temps, le besoin du temps. Et du coup, le temps trahit, je dirais, la loi.
Et on peut dire tout de même qu'il y a une grande différence entre ce qui est mis en œuvre et le rêve, par exemple, de certains pré-romantiques européens qui, comme Byron, quittent Constantinople pour arriver à Athènes en 1810, et qui écrivent ceci, publié en 1811.
Belle Grèce, triste relique d'une grandeur disparue, immortelle, bien que tu ne sois plus, et bien que tu sois tombée, grande, qui va se mettre à la tête de tes enfants dispersés, qui te délivrera d'un esclavage auquel tu n'es que trop habitué? Ils étaient bien différents, tes fils qui autrefois, guerriers sans espoir, acceptant leur destin, attendaient dans le défilé sépulcral des thermophiles désolés. Oh, qui retrouvera cet esprit héroïque? Qui sautera les bancs de l'Eurotas et te réveillera dans ta tombe?
Thank you. qu'on va créer, Yanis Tiomis, pour ce nouvel État, très inspiré des États européens de l'époque, de la Révolution française, d'une nouvelle capitale. Cette nouvelle capitale, on va la parer des plus beaux monuments possibles, de ces monuments qu'on appelle aujourd'hui néoclassiques. Et on va aller chercher, du côté de ceux qui ont fait leurs études aux Beaux-Arts à Paris ou à Munich ou à Berlin, on va aller chercher ces nouveaux architectes qui vont réinventer cette ville, qui vont détruire le bâti ancien, qui vont créer des rues à angle droit et des bâtiments le long de ces rues qui s'appellent aujourd'hui Stadiou ou Panepistimiou. On va donc créer des bâtiments qui sont à la hauteur de la gloire de la Grèce antique.
Oui, l'histoire de la création du plan d'Athènes, il est fascinant parce que les deux architectes, jeunes architectes, qui arrivent à Athènes en 1831, sont élèves de Friedrich Schinkel et à Berlin, étudiants à Berlin, et descendent à Athènes pour contribuer à la création de la nouvelle ville, surtout pour contribuer à la renaissance de la Grèce. Et tandis qu'ils font un relevé absolument fidèle de tout ce qu'ils voient.
C'est-à-dire de la ville ottomane, enfin du bourg ottoman.
Du bourg ottoman, qui est, il faut dire, réduit en ruine en 1826. Il n'y a pas d'Athéniens au moment où ils arrivent.
Donc c'est une sorte de table rase pour les architectes.
C'est une table rase dont le tissu ottoman est lisible. Et il relève ça, il relève les antiquités, il relève tout ce qui est visible, les églises byzantines, etc. Et deuxième temps, ils font comme si rien n'existait, à part le stade olympique, qui va devenir après olympique, le stade d'Hérode d'Atticus, et l'Acropole. Et à partir de ces deux références, ils vont faire un plan géométrique parfait, néoclassique, ne tenant pas compte du tissu ottoman. C'est un effacement, d'une certaine manière, de la mémoire et de l'espace physique de la période ottomane, et ils ne gardent que toutes les antiquités, bien sûr, visibles, mais en même temps un plan d'une modernité extraordinaire, parce que il prévoit un parc archéologique. C'est le premier parc archéologique, aujourd'hui c'est banal de dire il faut des parcs archéologiques, le premier parc archéologique au monde.
Dimitri Skopelitis, tout de même, cette ingénierie mise en place ne se passe pas sans heurts. Comment réagissent les autochtones à ces visions européennes? Est-ce qu'il y a de la résistance à la mise en place de cette monarchie ottonienne, qui donc est la première monarchie qui gouverne la Grèce? Est-ce que les Grecs eux-mêmes sont mécontents de ce que on fait de leur cadre de vie, de leur pays et du sort qu'on leur réserve?
Oui, effectivement. Ce qui va aboutir, on va dire in fine, à la révolution de 1843, qui consiste à demander au roi Othon une constitution. Mais tout le long, déjà dès la Régence et tout le long des années 30, ils ne vont cesser de demander cette constitution. Mais les frictions, elles ne remontent pas seulement à l'arrivée des Bavarois. Vous avez mentionné tout à l'heure le meurtre de Capodistrias. Là aussi, on assiste à l'assassinat d'un gouverneur qui a essayé de mettre en place un système moderne. Donc c'est plus large simplement que Bavarois contre Grec. Disons que c'est plutôt deux modèles qui s'affrontent. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est aussi des intérêts qui s'affrontent. Quand on vient, on essaie de percevoir des impôts dans le Magne. C'est tout à fait nouveau pour eux. Ils ne comprennent pas ce... Ils comprennent tout à fait le principe, mais ils n'acceptent pas forcément ce principe et réagissent de manière violente face à ce qu'ils considèrent comme une nouvelle occupation. Avant, ils considéraient qu'ils avaient les Ottomans, ils sont passés sous les Bavarois quelque part, ou même Capodistrias. La centralisation de l'État telle qu'elle a été voulue n'est pas perçue par toutes les provinces de manière positive.
Oui, cet écart, pourrait-on dire, entre ce qu'on a entendu tout à l'heure de Byron, de ses représentations d'une Grèce classique en tableau, en particulier par tous les peintres du début du 19e siècle, et puis ce qu'il voit, ça a quelles conséquences justement? Est-ce qu'ils se rendent compte, ces architectes par exemple, qui arrivent dans cette table rase athénienne, qu'ils sont en train de nier l'existence même de ce bâti ancien, qu'ils ne valorisent évidemment pas ni l'architecture vernaculaire ni l'architecture populaire. Vous donnez des exemples, en l'occurrence de Stamatis Vulgaris, par exemple, qui est formé lui aussi en Allemagne,
en France,
et qui est architecte et qui voulait la suppression des balcons, l'interdiction des commerces au rez-de-chaussée des maisons, etc. Tout ce qui était le bâti ancien, en l'occurrence Yanis Tiomis.
Oui, depuis Capadistria d'ailleurs, cette négation pour des raisons d'hygiène, cette négation de l'architecture vernaculaire, pour des raisons d'hygiène d'un côté, pour des raisons, je dirais, de culture de l'autre. On veut introduire la culture européenne. Et ce qui est intéressant dans la question que vous avez posée et que mon collègue Skopelitz a répondu à un niveau politique, il y a une résistance athénienne même contre le plan pour des raisons de spéculation et pour des raisons aussi de retrouver son ancienne maison. Le nouveau plan nie l'ancienne structure, les gens reviennent à Athènes et ils occupent leur ancien îlot. Pour vous donner une idée, il y avait à peu près 1200-1400 maisons à Athènes en 1826. Il ne reste debout que entre 20 et 40.
Non.
En 1830. Donc c'est Pompéi et donc ottomane. Cette résistance, c'est une résistance double. Donc d'un côté politique entre justement républicains et monarchistes, et de notre côté d'usage de l'espace, de propriété privée. Et c'est là où Athènes d'affaires éthérées, je dirais, idéal, devient pragmatique, devient banal.
Ouais. On se confronte au réel d'une certaine façon.
On se confronte. Tout idéalisme devient se soumet au pragmatisme après un certain moment.
Yorgos Archimandritis.
C'est très intéressant ce que vous écrivez dans votre livre quand vous parlez d'atopie. Je crois que c'est exactement ça, atopie, chez les auteurs antiques, désigne le fait de n'être pas à sa place, d'où l'extravagance, l'étrangeté, la nouveauté, mais aussi l'insolite, l'absurde et l'inconvenant. Donc finalement, Athènes, ça a été une atopie plutôt qu'une utopie.
Oui, c'était une atopie dans le sens où elle n'avait pas sa place au moment même où on la projette dans l'idéologie, dans la culture locale, mais elle a sa place dans le projet européen, dans la géostratégie, dans l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme. Et il faut voir que l'archéologie joue un rôle, vous l'avez dit dans votre émission de lundi, Anastasiadis l'a dit, joue un rôle politique aussi, l'archéologie.
Bien sûr. Et les écoles, les concurrences entre les écoles européennes d'archéologie, ces concurrences sont terribles.
Elles sont terribles. Et en même temps, l'archéologie, comme nouvelle science, contribue à résoudre des questions politiques.
Dimitri Skopelitis.
Oui, effectivement. Donc, l'archéologie a tout un pan symbolique qui permet aussi aux Européens de se projeter, je dirais. Et effectivement, on retrouve ces mêmes, on va dire, querelles qu'il peut y avoir sur le plan des écoles archéologiques, sur le plan de l'influence des grandes puissances qui cherchent à influencer les gouvernements locaux, tantôt du côté britannique, tantôt du côté russe ou français. Donc, si même, pour rejoindre aussi un peu l'architecture ou l'urbanistique, dont parle mon collègue Tsiomis. Si vous regardez simplement où se trouvent les différentes ambassades actuellement à Athènes, vous constaterez assez rapidement qu'elles ne sont pas très loin du palais d'Othon, oui, qui est maintenant le Parlement.
Oui, c'est-à-dire effectivement le centre du pouvoir royal nouvellement créé. Vous dites, Yannis Tsiomis, une jolie phrase, c'est le nouveau qui engendre l'ancien.
Oui.
C'est quand même incroyable cette histoire, c'est-à-dire qu'effectivement, par cette renaissance nationale, eh bien, on va réinventer, c'est ce qu'on dit depuis le début de cette semaine, d'une certaine façon, la Grèce antique, c'est-à-dire qu'on va le rechercher et le remettre à jour, comme on pourrait mettre à jour d'ailleurs des ruines archéologiques.
C'est une histoire de rétroaction, je dirais. C'est-à-dire, l'architecture néoclassique, inspirée de l'Antiquité, est une nouveauté pour la Grèce.
Ils n'ont jamais vu ça, effectivement.
Voilà. Il n'y a pas d'architecte, d'ailleurs, et il n'y a pas de style architectural néoclassique. Donc, cette nouveauté se réfère à un passé. Et ce passé, donc, permet de se projeter à l'avenir. Donc, c'est un va-et-vient.
On voit que vous avez lu François Hartog et que vous savez ce que c'est que ce sont les temporalités chez François Hartog.
Voilà.
Et comment, le passé servait à construire l'avenir.
Et c'est au fond, en étudiant un peu, suite à François Hartog, quel régime d'historicité est valide à cette époque, comme d'ailleurs Alain Schnapp sur le rapport histoire-archéologie et politique. Mais aussi, un autre élément très important, c'est la question des transferts culturels que Michel Espagne et Werner ont
Michael Werner, oui.
Voilà, ils ont mis en place, je dirais, comme manière de comprendre que quand un modèle voyage, il ne voyage jamais tel quel. C'est-à-dire, s'il n'y a pas une capacité de modification du modèle et de réception, s'il n'y a pas, c'est-à-dire, une permissivité du modèle, eh bien, à ce moment-là, il y a échec.
Oui. Tout de même, ce qui est passionnant, Dimitris Skopelitis, c'est qu'on voit comment ce rêve européen du XVIIIe siècle, incarné par Voltaire, Byron et d'autres, sur cette Grèce qui n'est pas encore la Grèce, va finir par créer un pays qui va s'approprier ce passé, comme vient de nous le dire Yannis Tsiomis, au point de réincarner cette Grèce antique en permanence tout au long du XIXe et du XIXe siècle. Et au bout du compte, si on est venu chercher la Grèce en 1978-79 pour pouvoir entrer dans l'Europe, c'est aussi parce que cette greffe historique, pourrait-on dire, a considérablement pris chez les Grecs et chez les Européens qui ont fini par croire à leur légende d'une certaine façon, en se disant la Grèce, c'est bien la patrie de nos ancêtres, en l'occurrence Dimitris Skopelitis.
Mais on voulait y croire.
Je pense bien que sûr.
C'est quand même une image tout à fait positive. On peut pas nier. Alors c'est pas cette partie-là. On peut pas nier l'héritage antique de la continuité, on va dire culturelle, du peuple grec en général. Ça a été montré. On a trop souvent eu aussi tendance à mettre de côté le passé byzantin.
Oui.
Et justement, en fait, ces écrivains, il faut comprendre aussi que ces voyageurs, ces écrivains parlent de manière idéalisée, certes, de l'Antiquité, mais ils en ont tout aussi une image tout aussi négative, finalement, de tout ce qu'il y a entre deux, et chacun pour ses raisons.
Oui.
Certains vont considérer l'Empire byzantin comme obscurantiste. Il ne s'est rien passé. Voltaire le dit, hein, justement, à Constantinople, il n'y a pas grand chose qui se passe. Finalement, ça n'atteindra jamais la grandeur de l'Athènes antique. Donc, dans ce cas-là, on va mettre l'Empire byzantin de côté. On va parler avec mépris de ces moines à Athos, qui, mine de rien, eux, ont préservé toute une partie de l'héritage aussi, hein, de la Grèce. D'autres vont fustiger le despotisme, d'un point de vue de la construction d'une idée libérale de la Grèce. Chacun a ses raisons, finalement, de mettre en avant les idées antiques et de dire, les Grecs, voilà, c'est pas leur faute, finalement, s'ils sont dans cette situation-là. C'est la situation qui leur est imposée, mais la question qu'on se pose, c'est par qui ? qui est fautif. Et le qui est fautif de cela varie dans le temps. Mmh. Parfois, ça peut être justement l'Empire byzantin. D'autres fois, ça va être les Ottomans, le sultan, le despotisme qui est là. Et parfois même, c'est les Grecs eux-mêmes qui sont, qui sont trop faibles, qui, voilà, le discours évolue.
Une question d'ailleurs qu'on pourrait poser en reprenant une question célèbre d'un historien célèbre. Les Grecs ont-ils cru à leur mythe? Mais là, en l'occurrence, les Grecs modernes ont-ils cru à ce mythe qu'on leur proposait, qui était là? C'est-à-dire qu'ils étaient les immédiats successeurs de Socrate, de Platon, de Miltiade, Yanis Tsiomis?
Oui, la question de la continuité est une question fondamentale, je dirais, et très controversée. Comme vous fabriquez l'histoire tous les jours, on fabrique l'histoire à ce moment-là, on invente des histoires. Un petit exemple. Les antiquités qui sont dans les villes où il y a des antiquités servent à faire de la chaux ou à les incorporer dans les maisons vernaculaires. Mmh. Donc il n'y a pas ce... Il est fabriqué, et heureusement d'ailleurs...
Le souci du patrimoine.
Il n'y a pas le souci du patrimoine. Et je dirais que l'antiquité joue un rôle de pacification. C'est-à-dire que l'antiquité et l'archéologie avec l'antiquité permet justement, de résoudre des contradictions dont a parlé Skopelidis tout à l'heure.
Il y a quand même un élément très important, c'est la continuité de la langue. Et ça,
oui.
Personne ne peut
tout
le contester. C'est pas fabriqué, cette continuité. C'est une continuité admirable. Voilà.
Et en particulier grâce à l'orthodoxie et grâce
exactement,
à l'Église,
donc,
en particulier pendant longtemps.
Oui, et puis je suis très content d'être grec et parler grec. Mais la langue, c'est un ciment, c'est sûr, mais ne suffit pas pour expliquer la naissance d'un État. Nation, de l'indépendance, etc.
Et racontez-nous tout de même comment ce rêve des architectes européens sur lesquels vous avez travaillé donc dans Athènes étrangère à soi-même aux éditions Parenthèse, Yanis Tsiomis, se heurte à un endroit, l'Acropole. Qu'est-ce qu'on peut en faire de ce truc-là? On ne peut pas y toucher.
On ne peut pas y toucher, et si, on peut y toucher. ce qui est très intéressant, c'est que l'Acropole, c'est le monument qui permet de créer Athènes.
Qui justifie tout.
Qui justifie tout. Et en même temps, il est intouchable. Et une petite anecdote, qui n'est pas une anecdote, qui fait partie de l'histoire, c'est l'histoire du palais. Où on va poser le palais
du roi,
hein, qui est le rapport avec avec l'histoire. Et tout le monde tourne autour de l'Acropole, jusqu'à ce que Schinkel de Berlin envoie un projet en 1834, au moment même où Athènes est désignée comme capitale, et il pose le palais sur l'Acropole. Alors, bien sûr, c'est une sorte d'erreur, je dirais, vis-à-vis de l'histoire, de vouloir faire ça. Mais en même temps, c'est tout à fait symbolique du rapport pouvoir-histoire. Mmh. C'est-à-dire que il joue avec cette question d'identification, je dirais, de légitimation du pouvoir par l'histoire et de l'histoire par le pouvoir.
Alors, peut-être pour terminer cette émission, faisons un saut aujourd'hui avec un architecte contemporain que vous avez rencontré, Yorgos Archimandritis.
Oui, c'est Renzo Piano, bien sûr, l'architecte italien qui a construit à Athènes le nouvel opéra, la nouvelle scène lyrique d'Athènes et la nouvelle bibliothèque et qui parle donc de la ville d'Athènes telle qu'il la voit aujourd'hui.
J'ai toujours pensé que la Grèce et Athènes en particulier, comme la culture d'Athènes, c'est une culture de faite d'intelligence légère, d'intelligence perméable. Le fait même que Athènes a inventé la démocratie il y a combien, 27 siècles, c'est une preuve de tout ça. Vous n'avez jamais remarqué, regardez une ville comme Athènes, par le haut, c'est comme d'ailleurs Rome ou d'autres villes comme ça. C'est des villes qui expriment d'une façon, c'est aussi vrai un petit peu pour New York, quand vous êtes en haut et vous regardez, New York c'est un petit peu plus comme un forêt pétrifiée. Athènes, ce n'est pas une forêt pétrifiée. Athènes, c'est des rochers blancs. C'est coupé dans la pierre blanche ou dans la chaude blanche. Mais c'est comme la preuve que millions de vies sont passées par là. Et chaque vie a laissé des traces. Et toutes ces traces, une à côté de l'autre, forment une ville. C'est magique tout ça. C'est merveilleux. Je trouve que c'est typique des villes européennes. Ça donne cette sensation merveilleuse qu'une ville, c'est la stratification l'une sur l'autre de millions de vies. Et c'est le monde de plus qui est encore là.
C'est formidable cet extrait d'entretien avec Renzo Piano. Vous êtes d'accord en tant qu'architecte ?
Je suis absolument d'accord. Et la stratification, c'est ce qui rend toutes les villes égales, je dirais.
Merci beaucoup Yanis Tiomis. Je rappelle que vous êtes auteur d'un livre très roboratif, très intéressant et tout à fait passionnant qui s'appelle Athènes à soi-même étrangère, très beau titre, naissance d'une capitale néoclassique. Il y a beaucoup plus de choses que ce que nous avons pu dire pendant cette heure d'émission avec vous dans votre livre, et c'est la même chose pour le livre de Dimitri Skopelitis avec Dimitri Zoufereï qu'on a déjà évoqué plusieurs fois dans cette émission à la Fabrique de l'Histoire, Construire la Grèce 1770-1843, publié en Suisse aux éditions Antipode dans la collection Histoire moderne. Merci à vous, Dimitri Skopelitis, d'avoir été à nouveau avec nous. Et merci donc à Daniel Königsberg pour les lectures des textes, ainsi qu'à Yorgos Archimandritis. Merci encore à tous. Et demain, nous continuerons et terminerons cette série en nous intéressant à d'autres inventions nationales en Europe, et pas simplement à la Grèce, comment se sont inventés ces pays et comment ils ont réinventé leur propre histoire. C'est ce que nous verrons demain dans le débat conclusif de cette série. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marseille et Francesca Fossati. Clément Daté nous a accompagnés à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. Et si vous voulez écouter ou réécouter cette émission d'aujourd'hui, celle de lundi que nous avons consacrée aux écoles françaises archéologiques en Grèce, ou encore le documentaire signé donc Yorgos Archimandritis et Séverine Cassard que nous avons diffusé hier sur l'invention des festivals d'Épidaure et d'Athènes après la Seconde Guerre mondiale, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez discuter également avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter, c'est Fabrique FC.